t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime.
Belle RTL vous offre toute la musique que vous aimez. Votre moment d'humour l'après-midi, c'est avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes.
Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Tous les jours de la semaine, je vous retrouve sur Bel RTL avec les grosses têtes dès 15h30.
Info, musique et bonne humeur. Bel RTL, vibrez ensemble.
Remplis mon verre. Solitude me rend légère, c'est dur à croire, ça n'a pas l'air. Quand tu vois ce que je parais, donc vas-y parle, non non non. Elle t'émerge froid, non non non. Donc vas-y parle, non non non. Oh non, t'as pas besoin de moi. Ouais, je suis un peu solitaire.
L'envie de construire une sorte de famille. Je dirais que je t'aime à la mort, à la folie. Je pense à qui finira par détruire qui.
J'ai vu ma vie se défiler après ce dernier comprimé. J'ai vu ma vie se défiler.
Donc vas-y pas, non non non.
Tu parles, non non non.
Elle t'émerge froid, non non non.
C'est l'heure du crime sur RTL avec Jean-Alphonse Richard.
Robert Spengler's confession was really
ce que racontait Robert Spengler était vraiment choquant. Tous ceux qui le connaissaient pensaient que c'était un homme gentil, incapable de faire de telles choses. Ce crime est certainement le plus odieux, le plus glacial que j'ai pu connaître.
Bonjour, Robert Spengler était un homme joyeux, sympathique, animateur dans des radios locales du Colorado, sportif émérite, randonneur hors pair. Avec lui pourtant, les épouses n'avaient pas de chance. En 1994, sa troisième femme fait une chute mortelle dans le paysage majestueux du Grand Canyon. 20 ans plus tôt, la première s'était officiellement suicidée après avoir tué leurs deux enfants. Quant à la deuxième, elle s'est aussi suicidée, elle était dépressive et désespéré. Il va falloir attendre des années pour qu'un policier s'étonne de cette vie frappée par le mauvais sort. L'enquête va ainsi remonter l'existence cachée du retraité, une trajectoire des plus ténébreuses, glaciale, impitoyable, une vie de secrets, de mensonges, de dissimulation. Le triple veuf était-il un criminel très particulier, à savoir un tueur en série conjugale? Question posée aujourd'hui à notre invité de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers, Robert Spengler. Le tueur d'épouses du Colorado, c'est tout de suite sur RTL. Sa Samedi 30 décembre 1978, peu avant midi, Tim Trefetik sonne à la porte de la famille Spengler au 7614 South Franklin Way à Littleton, une petite ville dans le Colorado. Il vient prendre des nouvelles de sa petite amie, Suzanne, 15 ans. Personne ne répond. Tim est étonné. Il décide donc d'entrer par la fenêtre ouverte de l'entresol. Il monte à l'étage. Suzanne est dans son lit. Elle est endormie. L'adolescent essaie de la réveiller, mais il s'aperçoit qu'elle ne respire plus. Son visage est bleu. Affolé, il se précipite dans la chambre voisine, celle de David, 17 ans, le frère de Suzanne, allongé sur le ventre, la tête sous un oreiller. Il y a du sang sur le corps et sur le matelas. Un quart d'heure plus tard, les hommes du shérif et un médecin légiste sont sur place. Ils constatent les décès des enfants. Suzanne a reçu une balle en plein cœur. David a été touché à l'abdomen. Il semble s'être débattu. L'arme du crime est un calibre 38. Les détectives fouillent la maison au sous-sol. La mère de famille, Nancy Spengler, 45 ans, est affalée sur une chaise devant un bureau. Un revolver Smith & Wesson 38 mm est au sol, la crosse recouverte d'une chaussette. Une balle l'a frappée en plein front. Sur la machine à écrire, il y a une lettre d'adieu. « Que dire maintenant que j'ai décidé de faire ça ?»« Je me sens brisée », écrit Nancy. Elle évoque une dispute avec son mari, la peur de perdre la garde des enfants. Elle signe avec l'initiale de son prénom un « N ». Pour les enquêteurs, le scénario est limpide. Le double meurtre des enfants suivi du suicide de la mère. Sauf que le mari est absent. Pas de téléphone portable à l'époque. Impossible de savoir où se trouve Robert Spengler, 45 ans. Vers 17h, il rentre chez lui. On l'informe du drame. Un enquêteur note sur un carnet. Pas de larmes. N'a pas demandé comment ils étaient morts. Spengler, ancien journaliste reconverti dans la communication d'entreprise, physique sportif, crâne dégarni, raconte s'être une nouvelle fois disputé avec Nancy. Le matin même, à 8h30, il explique que son couple se déchire. Il a d'ailleurs une maîtresse, Sharon Cooper, son assistante, 10 ans de moins que lui. Pour éviter de rester à la maison, il a traîné toute la journée en voiture, puis il est allé au cinéma, son avocat le dit bouleversé. Un mois plus tard, le père de famille est longuement interrogé. Surprise, il dit être revenu dans la maison. Après la dispute, il voulait s'expliquer avec sa femme. Il a trouvé la porte du sous-sol ouverte. Il a découvert le corps de Nancy. Il a ramassé l'arme par réflexe. Il était déboussolé. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Il est ressorti. Il ignorait alors que ses enfants étaient morts. Lundi 30 avril 1979, après 4 mois d'enquête, le shérif conclut que la mère de famille a bien tué ses enfants, puis elle a mis fin à ses jours. Les détectives doutent, mais ils disent n'avoir aucune preuve contre Robert Spengler. Lors du test du détecteur de mensonges, ce dernier a certes expliqué qu'il se sentait coupable, mais d'avoir acheté l'arme. Pour le reste, il a toujours répondu non aux accusations de meurtre. Aucune charge n'est retenue contre lui. Et voilà donc pour le premier acte de ce qui sera bien des années plus tard, l'affaire Robert Spengler, parce que pour l'instant, eh bien, ce communicant, comme on peut dire, cet ancien journaliste, eh bien, il a le droit de reprendre sa vie normale. Sa maîtresse va devenir sa deuxième femme, et puis bientôt une troisième femme va apparaître. Les années vont défiler jusqu'à ce qu'un policier s'intéresse enfin à cet homme, mais ça, on va le voir dans la suite de l'heure du crime. Pour l'instant, nous revenons à cette année 1978, dans cette petite ville de Littleton. Bonjour Vincent Manilev.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et vous êtes l'auteur de ce livre « Le veuf noir du Grand Canyon » publié aux éditions 10-18 en partenariat avec le magazine Society. Alors, on connaît bien cette collection dans l'heure du crime parce qu'on a raconté beaucoup d'histoires qui sont dans cette très très jolie collection 10-18. Moi, j'ignorais totalement cette affaire Robert Spengler. Là, vous la racontez très très bien de A à Z, et on comprend un petit peu les mécanismes qui ont amené cet homme, peut-être, on va le voir, peut-être, à tuer plusieurs épouses, quoi que pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, on est en 1978, qui est cette famille Spengler qu'on va retrouver décimée, la femme morte, les deux enfants aussi, c'est un carnage, c'est une famille banale et, j'ai envie de dire, normale.
Oui, c'est vrai que c'est la famille Spengler a emménagé à Littleton, qui est une ville qui est située au sud de Denver, dans le Colorado. Et c'est une ville avec un quartier très pavillonnaire, avec des belles maisons, des pelouses bien tondues. Vraiment, l'ambiance qu'on retrouve dans les films, dans les séries, où un peu tout semble bien aller, où on laisse à Halloween des bonbons devant les portes pour être très accueillant pour les gens qui passent. Et eux, en fait, c'est un peu la famille américaine typique. Il y a le père, il y a qui travaille, qui a une carrière assez brillante dans une grosse entreprise à côté. Il y a la mère qui reste plutôt au foyer, qui s'occupe des enfants, qui fait de l'associatif, qui s'implique dans la communauté locale. Et puis il y a les enfants qui ont un peu des petits soucis à l'école, qui consomment un peu de drogue à côté, etc. Mais globalement, ça a l'air de fonctionner, de tenir. Et puis Robert Spengler, il porte la famille avec son charisme, sa taille, plus d'un mètre 85, etc. Et puis c'est quelqu'un qui
est amical d'ailleurs. On l'aime bien dans le quartier.
Oui, c'est les gens l'apprécient. Il a toujours des histoires, des choses à raconter. Quand il arrive dans un groupe de conversation, c'est le genre de personne qui illumine un petit peu une pièce, ce genre de choses. Donc oui, il est plutôt très très apprécié et charismatique.
Alors dans cette Amérique de carte postale, cette Amérique idéale avec une famille idéale qui n'a pas de problème, il y a soudain cette tuerie dans la maison. Cette tuerie, Vincent Manilev, vous la racontez évidemment dans votre ouvrage et vous la détaillez. C'est un carnage, tout simplement, parce que là, on se demande un petit peu ce qui a pu se passer. C'est compliqué, tout de suite, pour les hommes du shérif.
Oui, c'est vrai, parce que, en fait, comme vous l'avez dit, le jeune Tim découvre Suzanne et David, donc les deux enfants à l'étage, et en fait il faut un peu de temps avant que les enquêteurs aillent au sous-sol et découvrent Nancy. Donc en fait, à partir de là, le scénario est pas clair, le père est absent, on ne sait pas où il est, des balles qui ont été tirées, les corps à l'étage qui ont été retrouvés dans des positions particulières, David avec un oreiller sur la tête, sur le visage. Donc en fait, le scénario est pas très compréhensible. Évidemment, c'est la lettre d'annonce supposé de suicide de Nancy qui va orienter l'enquête derrière, mais c'est vrai que quand ils arrivent, notamment dans un quartier comme ça, c'est assez surprenant et déconcertant.
L'épouse, on a l'impression qu'elle a mis sa mort en scène presque, parce qu'on la retrouve dans une position un peu bizarre, derrière une machine à écrire, donc tout a l'air d'avoir été organisé à l'avance, etc. Puis il y a ce revolver qui est au sol avec une chaussette sur la crosse. Alors ça veut dire beaucoup de choses, une chaussette sur la crosse.
Oui, ça peut laisser supposer qu'on veut pas forcément laisser de traces, ce genre de choses, ou alors que quand on le range aussi dans une chaussette pour le masquer un peu plus, le garder en hauteur, à l'écart des enfants ou de personnes peut-être malveillantes, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a plein de petits éléments comme ça, mais même la lettre de suicide, il y a une partie qui a été écrite à la machine à écrire, mais il y a la signature qui a été
manuscrite.
Manuscrite. Donc il y a ça, et puis même à l'étage, la position des corps aussi, comme je le disais. Et effectivement, ce qu'il faut aussi bien retenir, c'est que à l'époque, statistiquement, les femmes se donnaient plus rarement la mort avec une arme de ce type.
C'était pas courant.
C'était assez pas courant, donc ça interpellait beaucoup les enquêteurs aussi.
Alors évidemment, il y a Robert Spengler, c'est le mari. Il est là sans être là. Il était là, puis il va dire oui, mais je suis bien revenu sur la scène. Et puis là, je me suis affolé. J'ai failli tomber dans les pommes. Je suis parti. C'était trop insupportable. Je comprenais rien de ce qui se passait. Il est bizarre, Robert Spengler. Ils ont des doutes quand même, les enquêteurs, en écoutant cet homme.
Oui, dès qu'il arrive et qu'on remarque le fait qu'il pose pas vraiment de questions, qu'il a pas l'air ému, bouleversé, choqué, etc. Le fait qu'on découvre qu'il a une maîtresse, qu'il y avait un conflit familial assez marqué.
Ils se disputaient souvent.
Voilà, ils se disputaient souvent. Les enfants en parlaient entre eux, ils en parlaient à leurs proches. Les voisins quand même disaient... on sentait que des fois, il y avait des petites... tension. Et puis, il y a surtout cette absence et le fait qu'il soit arrivé sur les lieux du crime, soi-disant découvert sa femme, pas chercher à retrouver ses enfants.
Il touche l'arme.
Après, dans ce genre de situation, c'est difficile de savoir comment on réagirait, mais c'est vrai que c'est quand même assez suspicieux, surtout qu'en fait, au lieu d'appeler les secours, il part et il va au cinéma voir Le Seigneur des Anneaux, le film d'animation.
Le veuf quitte Littleton pour une nouvelle vie avec d'autres femmes. Robert Spengler, le tueur d'épouses du Colorado. Mon mari en a après moi. Cet homme sème derrière lui des traces de destruction humaine. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
just a game, then come and play.
Consacré aujourd'hui à l'affaire Robert Spengler. En 1978, cet Américain qui vit dans le Colorado a été questionné sur la mort violente de sa femme et de ses deux enfants. Il n'a pas été inquiété. 15 ans plus tard, il va perdre deux autres épouses, un accident de randonnée et un suicide. Samedi 14 juillet 1979, 7 mois après les meurtres de ses enfants et du suicide de sa première épouse, Robert Spengler se remarie avec Sharon Cooper. Elle était jusqu'ici sa maîtresse attitrée. Elle lui tenait même le bras lors des obsèques de sa famille. Les nouveaux époux emménagent dans la maison des crimes. Sharon fait découvrir à Robert le Grand Canyon. Elle connaît par cœur ses paysages grandioses. Elle a même publié un guide pour les visiteurs. Pendant quelques années, le couple semble ainsi filer le parfait amour entre balade à moto et randonnée. Jusqu'au 4 décembre 1987, où l'épouse est victime d'une crise de panique. Elle quitte la maison pour aller se réfugier dans un supermarché. Un policier est venu la chercher. Elle déclare « Mon mari en a après moi ». Pendant des mois, elle va répéter que Robert la terrifie. Elle le présente comme un individu qui sème derrière lui des traces de destruction humaine. Après 9 ans de mariage, le couple divorce. Mais Robert ne va jamais perdre de vue Sharon. Samedi 18 août 1990, 2 ans après son divorce, Robert Spengler, 57 ans, se marie une troisième fois. Donna Sundling, 55 ans, prof d'aérobic, divorcée, 5 enfants. Elle avait déposé une petite annonce dans un journal du Colorado pour trouver l'âme sœur. Le couple s'installe cette fois à Durango, toujours dans le Colorado. Spengler y devient vite populaire. Chaque matin, on peut l'entendre sur une radio locale. Animateur qui passe des disques, annonce la météo et converse avec les auditeurs. Le ton est bienveillant. L'animateur encourage à prendre soin les uns des autres. Il dénonce les violences faites aux femmes. Il ne parle jamais de sa vie privée. 9 avril 1993, Robert et Donna Spengler partent en randonnée dans le Grand Canyon. 3 jours plus tard, le mari se présente seul et en larmes au bureau des Rangers. Son épouse est morte. Elle a fait une chute de 50 mètres d'une falaise alors qu'il l'a photographiée. Elle avait le vertige. L'autopsie confirme la chute. La piste accidentelle est alors privilégiée. 7 mois après le décès, Spengler se remet en couple avec sa deuxième épouse, Sharon. Elle vient vivre chez lui à Durango. Mais 1 an plus tard, on la retrouve suicidée aux médicaments et à l'alcool. Mardi 4 octobre 1994, la mort de Sharon Cooper, ex-épouse Spengler, est annoncée dans les journaux locaux. Un assistant du shérif sceptiques sur le nom de Spengler. À la fin des années 70, Paul Goodman était un tout jeune enquêteur. Il avait eu à traiter le double meurtre de Littleton et le suicide dans la maison de Robert et Nancy Spengler. Il se souvient que le mari n'était pas très clair. Goodman se renseigne alors sur ce suicide. Il apprend au passage la mort accidentelle de la randonneuse Donna Spengler, l'épouse numéro 3. La famille ne croit pas à son accident. Elle est persuadée que Donna a été poussée dans le vide par le mari. L'enquêteur Goodman commence à s'interroger. Et si Robert Spengler était un tueur en série de femmes ? Trois épouses mortes dans des conditions suspectes. Au fil des années, Robert Spengler est devenu un veuf à répétition, un veuf noir. Une enquête tardive et discrète est donc ouverte en cette fin d'année 1994. On va voir comment les détectives du shérif, ils sont nombreux. Il y a aussi les détectives du parc, du Grand Canyon, avec les Rangers. Comment tous ces enquêteurs vont se rapprocher de ce retraité qui jusque-là n'a jamais été inquiété. On va voir ça dans la suite de l'heure du crime. Alors, on a le sentiment que Spengler, il peut pas rester tout seul. Il a envie de se marier. Il a envie toujours d'avoir une épouse, une compagne avec lui. Il se marie avec, donc, après le premier mariage et après ce drame, il a perdu sa femme qui s'est suicidée. Elle a tué les deux enfants. Il se marie donc avec Sharon Cooper. Et il y a quelque chose de très étrange. Vincent Manilev, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste, auteur du livre Le Veuf Noir du Grand Canyon, qui est publié aux éditions 10-18 en partenariat avec le magazine Society. Il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'ils vivent pour ce deuxième mariage, à Littleton. Ils sont retournés dans cette maison où les crimes se sont produits.
Oui, c'est vrai que le voisinage est assez étonné, voire choqué, et en même temps pas trop questionnant un petit peu sur ce couple qui revient comme si de rien n'était. Et très vite, ils se marient au bout de quelques mois, hein, à peine. Ça va vraiment vite. Et en même temps, leur relation durait depuis quelques années maintenant. Robert Spengler avait déjà quitté le domicile familial pour aller un peu vivre chez elle, etc. Donc voilà, ils ont juste repris leur histoire là où elle était. Ils l'ont accélérée. Et puis surtout, en fait, ils avaient cette passion commune des grands espaces, de la randonnée qui les tenait. Pour leur voyage de noces, ils sont partis en moto vers la côte ouest, et puis en revenant ils sont arrêtés au Grand Canyon et ils ont vraiment découvert pleinement cet endroit-là ensemble. Et oui, c'était un petit peu le couple cool, le tonton cool pour ses neveux, pour la famille, et dans le voisinage, les gens étaient soit interrogateurs, soit impressionnés.
Hein, le tonton cool, c'est comme ça que vous l'appelez dans votre livre, c'est d'ailleurs comme ça que l'appelle la famille, parce qu'effectivement, il est très sympathique. C'est vrai qu'en mot là-dessus, il a vite surmonté son premier deuil, à savoir une tragédie. Hein. Il a perdu sa femme et ses deux enfants. Mais on a l'impression que, bon, ça lui glisse un peu dessus.
Surtout que par la suite, en fait, en fonction des interlocuteurs qu'il a en face de lui, il va raconter des histoires différentes sur ce qui s'est passé des fois, et il va rarement évoquer la version officielle. Il va parler d'un accident de voiture dans lequel sa femme et ses enfants étaient. Il va parler peut-être d'une responsabilité de David, le fils aîné. Et donc, en fait, globalement, les gens, il l'évoque brièvement, mais assez vite, il se concentre sur sa nouvelle vie, sur sa passion de la randonnée. Ah, il faut aller faire de la randonnée avec lui là-bas. Il devrait venir. Sharon aussi adore et tout. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, il se recrée une histoire familiale, une histoire de couple, et il efface assez vite ce qui s'est passé à la fin des années 70.
Alors, divorce avec Sharon, mais elle va re-rentrer dans sa vie, on l'a vu. Divorce avec Sharon, l'autre épouse, la troisième épouse, donc c'est Donna. Elle part avec lui en randonnée, et puis elle ne va pas revenir d'une randonnée. Et là, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que il est très précis dans ce qu'il raconte. Il vient rapporter la mort après avoir marché très longtemps dans le Grand Canyon. Il rejoint le poste de police du Grand Canyon, enfin les Rangers. Et là, il est très précis.
Oui, et puis surtout, il y a un détail qui est quand même assez marquant, c'est qu'il fait la queue, il attend, il est dans la file d'attente pour parler. C'est-à-dire qu'il vient de vivre un drame et il attend pour prendre la parole. Et quand on dit personne suivante, il dit moi, il s'est passé quelque chose. Et là, effectivement, il fait un récit assez précis des événements, et il explique que un moment avant de remonter à la surface du canyon avec sa femme, ils se sont arrêtés au bord d'un paysage qui était très beau, avec une certaine profondeur juste sous leurs pieds. Il s'est retourné pour poser l'appareil photo sur un trépied, le préparer. Il a entendu comme une respiration, un gasp, comme on dit, et il s'est retourné, sa femme avait disparu. Et c'est ça le récit qu'il va donner aux enquêteurs à plusieurs reprises, aux rangers, aux policiers, etc. Il va pas s'en détourner et il va le raconter de manière assez calme. En tout cas,
il pleure beaucoup.
Alors à l'enterrement, alors les récits diffèrent. Il y a des personnes qui disent qu'ils l'ont pas vu trop choqué, ému, etc. D'autres qui l'ont vu au contraire, vraiment les larmes aux yeux, ce genre de choses. Donc là-dessus, c'est un petit peu incertain. Ce qui est sûr, c'est qu'il est allé très vite derrière dans la gestion du corps de Donna. Il l'a fait incinérer très vite, et puis après il est reparti dans le Colorado rapidement. Et la famille de Donna pas vraiment eu le temps de lui dire au revoir.
Alors il y a un policier un homme du shérif plutôt, qui va s'intéresser à cette histoire. Il va voir le nom apparaître dans la presse après ses décès. Il va se poser la question, il va se dire ah, ce Spangler ça me dit quelque chose, et puis il va remonter jusqu'au premier carnage avec les deux enfants et puis la femme morte. Il s'appelle Paul Goodman, vous l'avez rencontré et oui. Il vous a expliqué pourquoi il a eu ce doute, cette espèce de prémonition qu'il se passait quelque chose autour de cet homme.
Je pense que Paul Goodman est beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui me l'ont dit, notamment des gens du FBI. C'est peut-être l'un des enquêteurs les plus impressionnants et les plus professionnels qu'ils aient pu voir et côtoyer et avec qui ils ont pu travailler. Je pense que Paul Goodman, c'est quelqu'un qui est très fin sur le détail, sur le pressentiment que quelque chose ne colle pas, ne matche pas. Et c'est quelqu'un, en fait, qui derrière ne lâche pas. C'est-à-dire que des fois il peut y avoir des supérieurs qui vont lui dire laisse, c'est pas grave, ça c'est vieux, etc. Lui il va quand même creuser de son côté et quand il a une idée en tête, j'ai l'impression qu'il la lâche pas. C'est l'impression qu'il m'a donné en tout cas.
Et là il se dit Spangler, il y a quelque chose. Hein. Il va commencer à creuser tout seul de son côté parce que les dossiers sont vieux, il y a beaucoup de choses qui ont disparu.
Il faut quand même préciser que c'est aussi parce que du côté du Grand Canyon, il y a une inspectrice des Rangers, Bev Perry, qui elle aussi va avoir un petit peu des questions sur cette chute, etc.
Sur la chute accidentelle.
Parce qu'elle connaît évidemment très bien les lieux et tout. Et en fait, il va y avoir une mise en relation entre les deux. Et c'est là qu'ils vont se dire, Eureka, en fait, il se passe quelque chose et il faut qu'on travaille ensemble.
Un veuf retraité qui va se retrouver dans la peau du suspect numéro 1. Robert Spangler, le tueur d'épouses du Colorado. Étrange, elle a tenu l'arme à 20 cm pour se tirer une balle dans le front. L'enquête de l'heure du crime, trois épouses mortes, trois dossiers qui fourmillent de détails curieux. Lesquels ? À suivre, dans un instant, sur RTL.
Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du lagueur, la lopinelle, le partage. génération. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots se terminent en T. Ça repasse à tabac. Ça chauffe un peu dans les bas. J'entre à la casse-bas. Ça bouge sous les périphes. Ça rôde encore la nuit. Ça fait des hiéroglyphes. Ça fait des petits. C'est ça la France. Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France. Du Lagueule à l'Opinel. De partager les saucissons. Enfin, je pense, faut jamais les oublier. Les trois mots se terminent en T. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Lagueule à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier. Ces trois mots se terminent en T. Ouais, c'est ça la France. C'est ça la France. C'est ça la France.
C'est l'heure du crime sur RTL.
Avec Jean-Alphonse Richard.
Quand je l'accuse d'avoir tué trois de ses épouses et deux de ses enfants sur une période de 22 ans, il me regarde droit dans les yeux et me dit « Il y a un crime en trop ».
Retour dans l'heure du crime avec l'affaire Robert Spangler. Entre 1978 et 1994, cet Américain du Colorado a été marié trois fois. Trois épouses mortes dans des conditions suspectes, deux suicides et un accident de randonnée, jamais inquiété, jusqu'à l'ouverture d'une enquête discrète. Début 1995, le détective Paul Goodman enquête sur les morts mystérieuses des trois épouses de Robert Spangler. Il se penche sur la tuerie familiale de Littleton. Il remarque que le clavier sur lequel Nancy Spangler a écrit sa lettre d'adieu sur la machine à écrire a été parfaitement nettoyé. Pourquoi la victime aurait-elle pris cette précaution? La lettre d'adieu. Et pour sa part curieuse, l'épouse prend la peine de préciser comment elle a trouvé le revolver dont la crosse était recouverte d'une chaussette. Le rapport d'autopsie est garé et retrouvé après des mois de recherche. Une anomalie saute aux yeux. Nancy Spangler se serait suicidée dans une étrange position. Elle était assise et tenait l'arme à distance, 15 à 20 centimètres de la tête. Elle se serait alors tirée une balle en plein front, du haut vers le bas. Autre fait étonnant, la victime avait très peu de poudre sur les doigts alors qu'elle aurait tué ses deux enfants puis se serait suicidée. Une enquêtrice s'intéresse pour sa part à la mort accidentelle de Donna Spangler dans le Grand Canyon. La victime n'avait pas contracté d'assurance vie, elle n'était pas riche, ce n'est donc pas pour l'argent qu'elle aurait été tuée. Quant à Sharon Cooper, impossible de dire si son suicide est une mise en scène. Mardi 8 août 1995, un enquêteur entend pour la première fois Robert Spangler, 62 ans, retraité. Il est interrogé au sujet de la chute dans le Grand Canyon. Il dit qu'il ignorait que Donna avait le vertige. Il avait pourtant déclaré le contraire juste après le drame. Spangler refuse de se soumettre une nouvelle fois au détecteur de mensonges, dossier provisoirement refermé. Et c'est pas facile, effectivement, de rouvrir des dossiers anciens, que l'on soit en France ou même que l'on soit aux États-Unis. Il faut aller chercher la documentation qui est parfois perdue, des scellés qui, évidemment, ont été peut-être détruits au fil du temps, des témoins qui sont morts. Tout ça, ça fait le jeu de cet homme, hein, de Robert Spangler. Il joue là-dessus. Vincent Manilet, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, journaliste et auteur du livre Le Veuf Noir du Grand Canyon, publié aux éditions 10-18, en partenariat avec le magazine Société. Vincent Manilev, l'enquêteur principal, Paul Goodman, celui qui vraiment il était à la chasse de Robert Spangler, il sent que quand même ça vaut le coup, hein, il faut pousser parce que ça va finir par prospérer tout ça. Il y a tous ces indices qui s'accumulent contre cet homme.
Oui, c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre les années 70 où ont lieu ces premières morts et fin des années 90, il s'est passé presque 20 ans. et dans l'histoire de la police et des connaissances de l'étude de la criminalité, etc., il s'est passé beaucoup de choses au niveau scientifique, etc. Et donc, en fait, lui, avec son expérience, avec ses décennies d'expérience en tant qu'enquêteur, il voit le dossier avec des yeux neufs, en fait. Et il voit qu'en fait, bah là, tel enquêteur, pourquoi il a pas fait ça? Tel expert, pourquoi il a conclu ça alors que c'était pas normal? Il y a vraiment, en parcourant le dossier, il y a plein de choses qu'il a envie de surligner, en fait, et de se dire, mais là, ça colle pas. Et c'est pour ça qu'en fait, il va continuer. Et surtout parce que il va avoir ensuite l'aide de d'autres enquêteurs qui vont abonder dans son sens.
Il y a cette anecdote que vous racontez dans votre livre, c'est la machine à écrire. Et il va voir tout de suite que le clavier a été nettoyé. Il va se dire, mais c'est pourquoi on va suicider, on nettoie parfaitement le clavier, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a rien, tout est lisse.
Oui, et puis même le contenu de la lettre, il est, encore une fois, il est policier, des lettres de suicide, il en a vu plein au cours de sa carrière, et il y a souvent des messages qui reviennent. Là, le message de Nancy, elle évoque plutôt, j'ai trouvé l'arme comme ça, je vais emporter les enfants avec moi. Enfin, c'est des, il n'y a pas vraiment de cohérence un petit peu. C'est pas, ça fait pas message d'adieu, ça fait message de justification pour affirmer, c'est moi, Nancy, qui ai commis ce geste-là. Tout ça ne colle pas. Et puis même sur la scène où Nancy est, il y a plein d'autres éléments qui vont interpeller, même juste la position de l'arme, qui est quand même assez éloignée aussi, quoi.
Alors, il n'y a pas de crime sans mobile, et il y a un problème avec Robert Spengler, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, si c'est lui, pourquoi il aurait tué ses trois épouses, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Et les policiers vont creuser beaucoup la piste financière, parce que ça serait un bon levier. On se dit, après tout, ces femmes, elles étaient riches, et je me suis emparé de leur fortune.
Oui, et sauf que dans les faits, en fait, c'est un peu aussi une piste automatique, notamment quand le FBI va s'impliquer, c'est les crimes en col blanc, etc. Enfin, ils ont un peu un process, ils vont fouiller cet aspect-là, mais très vite, ils vont se rendre compte qu'en fait, commettre un crime n'aurait pas eu vraiment d'intérêt, comme vous l'avez dit, parce qu'il n'y avait pas forcément d'assurance. Ses épouses, à part peut-être sa troisième femme, qui avait peut-être un petit peu d'argent de côté, une maison, mais globalement, c'était pas des personnes dont il aurait pu tirer un profit conséquent.
Un petit mot, Spengler, il est entendu, brièvement d'ailleurs, on a l'impression qu'il risque rien, il est tranquille.
Oui, et puis en fait, il se dit, j'ai échappé une fois, le dossier a été fermé, il y a même des parties de l'enquête qui ont disparu, le rapport du légiste de l'autopsie de Nancy a un peu disparu, voilà. Et puis lui-même s'est débarrassé de l'arme, en fait, puisqu'à la fin de l'enquête, il a récupéré l'arme, et puis il s'en est débarrassé. Donc voilà, encore une fois, des éléments qui plaident en sa faveur.
5 ans après la réouverture du dossier, une nouvelle va tout changer. Robert Spengler, le tueur d'épouses du Colorado. Eh bien, messieurs, vous l'avez, votre tueur en série, l'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime.
Sur RTL.
You're late, I'm already here. Talk to me.
You will have visual confirmation of your mark in the next 10 minutes.
Baby, you're priceless.
I wanna do
L'heure du crime
sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Robert Spengler, trois mariages et trois morts suspectes des épouses dans la vie de cet Américain débonnaire du Colorado. Plus de 20 ans après le premier décès, les enquêteurs vont cette fois cerner le triple veuf. Dimanche 29 août 1999, Robert Spengler, 66 ans, dans l'impossibilité de rester célibataire, se met en couple avec Judith Hilty, 10 ans de moins que lui, quatrième épouse. Il s'installe à Grand Junction, Colorado. Retraité, actif, il se remet au théâtre, joue dans une comédie musicale, mais un an plus tard, il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon et du cerveau. Il est condamné. Les enquêteurs savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour réinterroger Spengler. 14 septembre 2000. Ils viennent donc le chercher pour des vérifications et bavarder. On le met à l'aise. Un policier du FBI est présent. Il dit au retraité qu'il a besoin de conseils. Spengler est un ancien journaliste. Il aimerait donc qu'il lui donne son avis sur le crime en général, sur les enquêtes et sur les scènes de crime. Spengler se prend au jeu, mais sans reconnaître avoir tué qui que ce soit. On lui cite les 5 crimes dans lesquels il est cité. Ses 3 épouses et ses 2 enfants. Il finit par dire « Il y en a un de trop ». Tout le monde sursaute, mais la procureure estime que cette réflexion ne suffit pas à l'inculper. Vendredi 15 septembre, Robert Spengler est réinterrogé. Cette fois, sa femme Judith l'accompagne. Elle lui conseille de dire ce qu'il a sur le cœur. Robert Spengler passe aux aveux. Oui, il a tué sa première épouse, Nancy, et leurs 2 enfants. C'était le seul moyen de se débarrasser de sa famille pour refaire sa vie avec Sharon, dit-il. Il ajoute, c'était plus facile que de divorcer. Il se souvient de tout. Il raconte avoir regardé sa fille endormie. Il a visé le cœur. Ensuite, il a tiré sur son fils. Il l'a blessé. Puis, il l'a étouffé avec l'oreiller pour la 3e épouse. Il l'a poussé depuis la falaise. Il répète sa phrase fétiche. C'était plus facile que le divorce. Il dément, en revanche, avoir tué sa 2e femme, Sharon. Eh bien, messieurs, vous l'avez, votre tueur en série, s'exclame alors Robert Spengler. Et il va être jugé, Robert Spengler. Vincent Manilev, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste, auteur du livre Le Veuf Noir du Grand Canyon, publié aux éditions 10-18 en partenariat avec le magazine Society. Vous êtes allé déterrer, j'ai envie de dire, cette affaire qu'on connaît pas en France, mais qui est passionnante, avec effectivement ce tueur en série spécialisé dans les épouses. En tout cas, c'est comme ça qu'apparaît Robert Spengler. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous racontez, c'est que lorsqu'il est interrogé, là, les policiers, ils ont mis en place un canevas très particulier. Ils ont décidé de le coincer. D'abord, ils font venir l'épouse. Donc ça, c'est important parce que la dernière épouse, elle ignore tout ce qu'il a pu faire, mais enfin, elle est très conciliante. Donc elle va l'amadouer. Et puis auparavant, il y avait un policier du FBI qui l'avait interrogé rapidement. Et là, il avait flatté son ego à Robert Spengler. Et on sait que les tueurs en série, bah, ils adorent qu'on parle d'eux.
Oui, c'est vrai, l'agent du FBI qui s'appelle Lenny Jones, il a eu un rôle très important, puisqu'avec le FBI et tout le travail de profiling qu'ils ont pu faire, ils ont compris, grâce à des questionnaires sur l'entourage de Spengler, qu'il avait une personnalité qui adorait les compliments, vous l'avez dit,
narcissique,
il a fait de la radio, il adorait être connu dans les magasins, etc. Donc c'était une personnalité locale assez forte, et en fait, pendant l'interrogatoire, Lenny Jones va dire, j'ai besoin d'apprendre de vous. Il y a des profilers à Quantico, ils aimeraient beaucoup vous parler, mais il faut nous aider aussi. Ouais. Et donc il va faire une espèce de d'échange avec lui où il va dire on va vous donner de l'importance, on va vous mettre sur une sorte de piédestal juridique criminel, ce qui est très étrange, mais en échange il faut faire un pas vers nous parce que faut que les profilers soient sûrs que ça vaut le coup. Que ça vaille le coup de venir vous voir. Et par ça, ils vont même mettre en scène des pièces, le faire passer devant une pièce soi-disant d'enquête dédiée à l'affaire Spengler, alors que tout est mis en scène, les ordinateurs sont éteints, etc. Et c'est juste pour déclencher quelque chose chez lui et qu'il croit qu'il est important.
C'est ça. Ouais. Et qu'il est reconnu et qu'il est important et qu'on va parler de lui d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, on va parler de lui. Un petit mot, Vincent Manilev, la tuerie, la première tuerie familiale,
familial. Son épouse qui donc ne s'est pas suicidée, il l'a tuée. Il a également tué les enfants. Donc il a tué tout le monde dans cette maison. Alors là, il n'y a aucun détail qui manque. Il est prolixe. Il se souvient d'absolument tout.
Oui, surtout qu'en fait, c'est un scénario qu'il a réfléchi. C'était pas impulsif. Il y a pensé la veille, il savait comment faire. Et puis, encore une fois, lui, il était un petit peu visiblement obsédé à l'idée de ce statut de tueur en série, en fait. Parce que on lui a fait comprendre, non mais si vous, c'est des tueurs en série, c'est sur plusieurs endroits, différents moments, etc. Là, il n'y avait qu'une tuerie, donc c'est pour ça qu'il a avoué le deuxième crime. Mais il était effectivement... il avait une forme, je ne sais pas si on peut dire de fierté, mais il était très content de raconter le déroulé en se disant « Ah voilà, peut-être que quelque chose que les gens du FBI et les enquêteurs
n'ont pas
vu venir. » Et avec ça, ils voudront comprendre comment fonctionne mon cerveau.
Et puis, il rentre dans le club des tueurs en série. Et ça, c'est effectivement à Quantico, comme vous dites, c'est le siège du FBI. Les gens du FBI, ils connaissent ça. Ils savent exactement que ces gens-là, ils se reconnaissent entre eux. Il y a une espèce de fraternité, entre guillemets, des tueurs en série. Ça existe vraiment. Alors, il a cette phrase qui est extraordinaire. J'ai tué. Pourquoi vous avez tué? Ben, j'ai tué parce que c'était plus facile que de divorcer.
Là, c'est très dur de commenter ça parce qu'en fait, c'est difficile d'avoir les mots pour un tel constat, une telle justification, même si le crime n'est jamais justifiable, évidemment. Mais le fait que pour lui, il estime que ça, que tuer quelqu'un, ôter la vie d'une personne, de ses enfants, de ses femmes, c'est plus facile qu'une démarche légale, administrative, c'est indicible en fait. C'est, ouais. ça sort complètement de l'entendement. Et je pense que ça, il y a eu un temps, moment suspendu dans la salle d'interrogatoire.
Inculpé et bientôt jugé. Robert Spengler, le tueur d'épouses du Colorado, rien n'a jamais laissé penser qu'il ferait de telles choses. Il était merveilleux. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
C'est l'heure du crime sur RTL.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire Moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi mot. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire Balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire Moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
C'est l'heure du crime sur RTL
avec Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime, l'affaire Robert Spengler. En 1999, ce retraité affable, démasqué tardivement, avoir tué son épouse et leurs deux enfants 20 ans plus tôt. Il n'a pas reconnu le meurtre de sa deuxième femme, un suicide, mais il a avoué celui de la troisième. Il est jugé. Vendredi 6 octobre 2000, Robert Spengler, 67 ans, comparé devant le tribunal de Grand Junction. Il plaide non coupable. Il a avoué parce qu'il était malade, il avait un cancer. Mais il va finalement se raviser. 5 mois plus tard, 12 mars 2001, Spengler est condamné à la prison à vie. Sa 4e épouse, Judith, est incrédule. Je n'ai jamais eu peur de Robert. Rien n'a jamais laissé penser qu'il ferait de telles chose. Il a toujours été merveilleux avec moi. Robert Spengler avait demandé que ses cendres soient dispersées dans le Grand Canyon. Ultime requête refusée par la justice.
Quand la police a demandé à Robert Spengler pourquoi il avait tué sa famille, il a répondu qu'il était égoïste, que tuer était plus facile que divorcer. C'était la meilleure solution.
La voix d'Electa Draper, journaliste au Denver Post, c'est dans un épisode de Crime Stories qui avait été diffusé en 2010. Vincent Manilet, vous êtes avec nous pour nous éclairer sur cette histoire. Vous êtes l'auteur du livre Le Veuf Noir du Grand Canyon, qui est publié aux éditions 10-18 en partenariat avec le magazine Society et qui raconte toute cette histoire très peu connue en France. Effectivement, là, vous nous faites des révélations qui sont étonnantes. On connaissait pas ce Robert Spengler, tueur en série d'épouses. Il est mort sans avoir tout dit. Et peut-être il aurait aimé d'ailleurs raconter encore plus, parce qu'il se prenait au jeu.
Oui, comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y avait une volonté pour lui de parler aux profilers du FBI. Je pense qu'il voyait ça un peu comme une consécration aussi. Et côté du FBI, ils avaient prévu d'aller le voir, mais plus tard. Ils n'étaient pas non plus pressés, mais ils avaient prévu d'aller lui parler, parce que forcément, ça fait des éléments de réflexion intéressants pour eux, pour affiner leur travail derrière. Et je pense qu'effectivement, au vu de dire de certains proches à lui, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément encore sur sa vie passée, des choses dont j'ai pas pu forcément parler dans le livre parce que j'avais pas assez d'éléments, mais ça nourrit et ça complète vraiment la complexité et l'horreur de ce personnage.
Ouais. Alors il était tueur en série dès son premier acte, j'ai envie de dire, hein, puisqu'il tue ses deux enfants et puis il tue sa femme. Il a continué par la suite. C'est vrai que lors de ce massacre familial, on aurait pu l'arrêter. On l'a raté, il faut bien le dire. L'enquête, elle est foirée au début.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, des enquêteurs comme Paul Goodman veulent pas forcément le dire pour pas mettre à mal ses anciens collègues. Mais c'est vrai que ne serait-ce que les traces retrouvées sur les mains qui indiquent l'usage d'une arme, que ça soit la lettre de suicide qui est quand même assez étrange, tout le contexte familial, il y a énormément d'éléments qui pointaient vers Robert Spengler. À aucun moment, aucun autre suspect n'a été considéré. À part Nancy dans la version officielle. Mais effectivement, il y a eu un raté et je pense que sa personnalité, son aura générale et sa réputation l'ont vraiment aidé. Et je pense qu'aussi le contexte d'époque fait aussi qu'à l'époque, on prenait beaucoup moins en considération les violences conjugales. C'est un sujet qui est toujours très délicat aujourd'hui. Voilà. Mais même quand on parle de sa deuxième femme, qui avait une santé mentale extrêmement fragile, c'est une femme qui s'est retrouvée seule, qui a eu énormément de problèmes de santé. Et quand elle s'échappe pour essayer de prévenir un policier, elle n'a pas été entendue. Enfin, elle a été entendue, mais elle n'a pas été écoutée, en fait. Elle n'a pas été accompagnée. Et je pense que cette histoire, elle souligne beaucoup de choses assez importantes sur ce sujet-là.
Et elle est retombée, cette femme, dans les griffes de Robert Spengler, même si on pense que c'est un suicide, effectivement. En tout cas, Robert Spengler, il n'a pas aidé à se sortir de cette situation névrotique. Comment il a pu passer à travers les mailles du filet pendant autant d'années ? C'est très étonnant que personne n'ait remarqué ce personnage. Ce sont les États-Unis, c'est tellement vaste qu'on oublie.
Bah, il y a un peu de ça. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, le Colorado, c'est un État qui est quand même assez vaste. C'est-à-dire qu'il va déménager, il va effectivement rester un temps avec sa seconde épouse sur l'endroit où ont eu lieu les crimes, mais ensuite il va déménager à Durango, puis déménager à Grand Junction. Il va en fait recréer des cercles sociaux auprès desquels il va remettre un nouveau masque, de nouveaux mensonges, et se créer une nouvelle image. Donc en fait, et c'est ça qui a permis aussi de faire exploser, nourrir l'enquête, c'est à partir du moment où deux personnes à des centaines de kilomètres de distance vont communiquer entre elles et se dire maintenant, ça va pas, ça colle pas. Ouais. Et je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que cette histoire de densité de population très précise, très localisée, avec un esprit de communauté très fort, fait que en fait, il y a pas eu. Il a pu se préserver pendant autant de temps.
Ça l'a protégé.
Ça l'a protégé. Au-delà des manquements de l'enquête, oui, puis, aussi, évidemment.
Oui, puis il a une vraie intelligence. Il est malin, vous le dites. C'est un caméléon, donc il sait s'adapter, effectivement, à toutes les situations. Une dernière question avec vous, Vincent Manilève. Le veuf noir du Grand Canyon, c'est le titre de votre ouvrage. Pourquoi vous êtes allé chercher cette histoire, comme ça? Totalement inconnue en France.
Oui, alors, ça c'est nourri aussi de discussions avec mon éditrice, Elsa Delachère, mais il y avait plusieurs choses. Il y avait l'envie de raconter une histoire inédite, ça c'est sûr. Il y avait ces manquements policiers sur tant d'années, évidemment. Il y avait ce sujet des violences conjugales qui était, je pense, très très important. Et il y avait aussi cette thématique des grands espaces qui n'avait pas été abordée aussi dans la collection, et c'est quelque chose de fondamental dans la culture américaine. Et donc en fait, c'était assez naturel qu'on ait envie de raconter cette affaire-là.
Merci beaucoup, Vincent Manilève, d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'Art du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossarté à de Turckheim, réalisation en direct Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL
et l'Art du Crime. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand, chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain, trying to switch the lane.
Just run away.